Vous savez, au début, on est parti à Bordeaux sur les grossistes. On a vite compris que ça ne nous a pas plu et c'était pas intéressant. On préférait le contact avec le client, mais c'est aussi de montrer aux gens voilà, qu'on peut faire du bio et pas cher. Et si les gens autour d'ici ne viennent pas parce qu'on est trop cher, on aura raté notre pari, quoi.
Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieure agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
T'écoutes Les Mains Libres et ça commence tout de suite.
Après le générique.
Pour ce 14e épisode des Mains Libres, on file en Gironde chez Milou qui s'est lancé il y a quelques années dans la production de champignons et d'endives dans des carrières souterraines. Milou nous raconte les débuts de cette aventure avec son associé Yanis et le fonctionnement de leur exploitation insolite. L'épisode a été enregistré à l'entrée de la carrière, un jour de grand soleil, et on espère qu'il t'apportera un petit vent de fraîcheur comme à nous ce jour-là.
Mais je m'appelle Emilien, j'ai 34 ans. Avec mon ami et associé Yanis, on produit des champignons biologiques, shiitake et pleurotes, dans des carrières souterraines et qui étaient abandonnées. Pour la petite histoire, c'est des carrières qui ont été creusées en 1870 pour extraire la pierre qui a servi à construire Bordeaux et les villes aux alentours. Donc c'est du calcaire, on appelle ça une pierre à calcaire. Et après ça, dans les années 50 jusqu'en 1997, ils ont fait de la production de champignons de Paris. Dans le coin, c'était la grosse production du coin. Mais tout a été arrêté à cause de la main-d'œuvre hollandaise et polonaise. Donc il y avait 40 emplois dans les carrières ici. Et c'était vraiment une grosse production. Et nous, on est arrivé il y a maintenant 3 ans. Tout était abandonné. On a sorti 7 tonnes de déchets. On est maintenant aussi en site Natura 2000 avec la présence de chauves-souris qui hibernent l'hiver. Donc on a demandé autorisation à l'État. On a tout nettoyé et puis voilà, maintenant on fait une production beaucoup plus petite de champignons et aussi d'endives de terre. On pourra peut-être y revenir plus tard. Et on vend toute notre production dans un rayon de 25 km des carrières, donc que du direct.
Comment t'en es arrivé à faire des champignons? Ça vient d'où cette idée?
Et ouais, c'est plus, en fait avec Yanis, on s'est rencontrés dans une école humanitaire quand on était plus jeunes. Et donc moi, j'ai enchaîné les missions de mes 25 à mes 30 de manière intensive. Et j'étais un peu perdu au bout d'un moment, je perdais un peu le sens de ce que je faisais. Et voilà, donc je suis revenu dans mon village ici à Lugasson, donc dans l'entre-deux-mers en Gironde. Et c'est un voisin qui m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des champignons dans les anciennes carrières, vu que ma famille était propriétaire du tuyau avec les vignes qu'ils avaient. Et ça s'est lancé comme ça, j'ai fait une formation d'une semaine pour voir un peu à quoi ça correspondait parce que je connaissais Walou. Et j'ai surtout appelé après Yanis qui était lui en mission avec Médecins Sans Frontières en Centrafrique à l'époque pour lui demander s'il voulait faire des champignons avec moi. Parce que ce que je savais pour sûr, c'est que je n'allais pas me lancer tout seul dans un projet agricole. Et il m'a demandé une semaine de délai de réflexion et après une semaine, il m'a dit banco et on s'est lancé comme ça.
Oui, parce que c'est vraiment un truc qui est ressorti un peu des discussions qu'on a eues et quand on en a parlé avec Julien après, qu'en fait vous êtes lancé complètement, quasiment sur un coup de tête, on va dire.
Faut pas trop réfléchir en fait, c'est ce que j'avais envie de faire, c'était un truc qui nous a chauffé tous les deux et ouais, on s'est lancé, on a mis plein d'énergie dans le projet et moi, j'étais un peu convaincu que ça allait marcher. Yanis était le roi du tableau Excel et des stats, donc le projet avait l'air aussi de marcher, et c'est le cas. Donc on est assez content de ne pas avoir hésité.
Tu nous as dit que tu voulais absolument être associé et donc créer un GAEC. C'était vraiment important pour toi? Pourquoi? Pour ton temps libre ou juste avoir les responsabilités à deux?
C'est vrai que c'est toujours plus facile à deux, on peut toujours accuser l'autre. Mais plus sérieusement, non, comme je disais, c'est que moi je viens d'une famille de viticulteurs. Et quand je revenais entre mes missions déjà ici, sans avoir d'activité agricole, je les voyais galérer tout seul et je me suis dit jamais je ferais ça, quoi. Donc moi, ça a toujours été dans ma tête de ne pas me lancer tout seul. Et puis aussi, comme vous avez vu un peu, le projet est plus global que les champignons ici. C'est aussi de faire une ferme à l'ancienne et en collectif. Donc ça commençait forcément, voilà, avec Yanis, on était proches, on était potes, on a les mêmes visions. Donc ça s'est fait aussi un peu naturellement comme ça. Et maintenant, on est sur une phase où voilà, on aimerait bien diversifier et accueillir plus de monde pour rejoindre l'aventure.
Puis en plus, tu fais beaucoup d'humanitaire. Ça te permet de partir parfois en mission humanitaire
Tout à fait. C'était l'idée aussi, ouais, d'être avec Yanis qui est, lui aussi continue à faire ses missions. Donc oui, ça nous permettait aussi de pouvoir partir, pas en même temps forcément, mais quand l'un de nous a une proposition ou une envie de repartir, ça permet à l'autre de continuer avec un peu d'aide et ça permet, ouais, d'avoir une flexibilité aussi au travail.
Moi, je voulais rebondir sur... Tu nous as dit que tu étais d'une famille de viticulteurs, que tu es arrivé et que tu es revenu pour faire autre chose. Ça, on en a pas mal parlé avant. Mais comment ça s'est passé dans la famille, etc., pour dire que tu reviens, mais tu reprends pas la suite forcément de ta famille, etc.
Oh bah, ça s'est bien passé parce qu'ils voulaient pas que je reprenne. Non, on n'a pas trop les mêmes visions. Moi, je suis un peu le seul pour reprendre. Donc, à un moment donné, comme on dit ici, ça, je vais finir peut-être par les reprendre, ces vignes, mais c'est pas mon intérêt. Donc, moi, les vignes, j'avais déjà essayé de revenir. Mais en fait, le projet agricole ou de m'installer, parce que voilà, quand je suis entre deux missions, je revenais, j'avais pas de chez moi, j'étais toujours chez ma mère, donc c'était un peu compliqué. Donc, j'avais déjà essayé de vouloir reprendre les vignes. En biologique, puisque ici ma famille ils sont conventionnels, comme on dit, donc avec du glypho et du pesticide et de l'herbicide. Donc ça, c'était pas moi du tout ma vision. Donc ça, c'était pas fait et en fait, ça m'a bien plu l'idée des champis, j'ai trouvé ça génial quoi. Parce que dans le coin, il y en a pas. Il n'y a plus personne. Comme je disais avant, c'était une grosse activité dans le coin, mais il n'y en avait plus aucun qui faisait.
Donc on en est à parler des champignons. Est-ce que tu peux nous parler, nous expliquer les différentes étapes de production, celles que tu fais, celles que tu envisages de faire plus tard?
Mais ouais, comme vous voyez, nous on est, ça n'est pas trop résilient, c'est un mot qu'on aime beaucoup, je pense qu'on l'a répété, enfin en tout cas moi je l'ai répété bien assez. Et oui, là pour l'instant on se dit qu'on est producteur de champignons, on est plus ramasseur, on est en toute transparence et c'est ce qu'on dit à nos clients. On reçoit en fait nous des substrats donc, sur lesquels poussent les champignons déjà tout préparés, tout faits sur de la paille biologique. Et ces blocs de paille de substrat, on les reçoit et nous, on a juste à les entreposer dans les bonnes conditions, donc dans les carrières où il y a une température constante autour des 15 degrés, un taux d'humidité à plus de 95%, ce qui nous permet, et puis un peu d'aération pour les pleurotes, et ce qui nous permet que les champignons trouvent un endroit pour pousser. Et nous, le projet, voilà, vu que ça fait 3 ans, c'était la facilité, et puis on s'est lancé, comme tu disais, un peu billet en tête, donc on ne se voyait pas faire nous-mêmes partir de la base, on dit du blanc de champignon qui est un peu la racine, la base du mycélium, qui est la racine lui du champignon. Et ça demandait un investissement important, c'est vraiment notre travail, c'est ce que j'avais vu dans ma formation. Et maintenant qu'on commence à un peu connaître ce qu'on fait, avoir un peu une assise aussi financière, parce qu'il faut qu'un projet agricole, la base économique, il faut qu'elle soit aussi viable. Et donc maintenant le projet, comme je vous disais, c'était de faire nous-mêmes notre blanc de champignon, donc de faire nous-mêmes notre substrat. Et là, l'idée, ça serait de refaire du champignon de Paris, parce que c'est ici, dans les carrières, en fait, le champignon de Paris, c'est le seul champignon qui pousse sans lumière. Alors, comme vous avez vu, les pleurotes et les shiitakes qu'on a, nous, on met de la lumière. Et ça aussi, on trouve ça pas très logique. Puis, comme vous avez participé la semaine dernière, c'était de faire pousser de manière traditionnelle le pleurote et le shiitake, c'est-à-dire sur des bios de bois. Donc ça aussi, c'est des expérimentations qu'on fait depuis l'année dernière. Donc on n'a pas encore récolté les fruits, puisque ça fait, comme je vous ai expliqué, un an et demi à pousser, par exemple, pour le shiitake, le temps qu'on inocule une cheville. Donc, c'est une cheville des mycéliums qu'on va, on utilise la visseuse, on perce les bûches de bois, et puis après, on va rentrer ces chevilles qui vont normalement prospérer dans le bois et sortir, voilà, un an et demi après. Et ça aussi, c'est un projet qu'on aimerait bien pousser à bout. Et logistiquement, voilà, c'est un peu compliqué quand on a 2 récoltes par an, alors que nous, voilà, on écoule des kilos et des kilos chaque semaine, vu qu'on fait entre 5 et 6 marchés par semaine, il faut un peu de la quantité.
Et moi, je trouve ça intéressant, enfin, c'est rare d'avoir cette façon de faire, on se lance et ensuite on améliore le processus. Souvent, on a rencontré des gens qui essayaient d'avoir un truc super cadré dès le début, etc. Et en même temps, ça t'obtient une bonne stabilité financière et je pense que ouais, c'est intéressant.
Est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs de champignons en France ? Ou enfin même dans le coin, en fait, t'es le seul.
Les champignonnières en activité, le chiffre que moi j'ai, c'était dans les années 90, on en avait 2000 qui fonctionnaient. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus que 60 champignonnières. Donc je sais qu'en Gironde, on est 4 producteurs. Je crois qu'un peu plus maintenant, il y en a qui arrivent petit à petit, mais il y en a un autre en carrière, deux en carrière, trois. Non, donc il y en a quatre en carrière et un, c'est beaucoup aussi l'agriculture urbaine, parce que le champignon, il a la mode pour ça. Ou c'est des gens près de Bordeaux qui utilisent les sous-sols des HLM pour faire pousser les champignons. Mais tous ces gens-là, ils font pousser du... avec... On a tous le même fournisseur, puisque des fournisseurs de substrat, ça, il n'y en a que deux en France. Et ces Français aussi, souvent, il y en a un qui est le plus gros européen, donc c'est vraiment des gros... Voilà, c'est vraiment une niche. Et c'est ça qui est très difficile de faire nous-mêmes, quoi.
Je sais que tu avais parlé un peu de l'importation. On importait beaucoup de champignons en France comparé à ce qu'on produisait du coup.
Ouais, tout à fait. C'est ce que j'explique sur le champignon de Paris. En fait, c'est ça. C'est que on est passé de quand il y avait 2000 champignonnières dans les années 90, c'était principalement, si ce n'est presque uniquement du champignon de Paris. Bon, il y avait aussi des producteurs qui faisaient déjà dans les années 90, même voire 80, des shiitake, des pleurotes en France. Mais c'était beaucoup de champignons de Paris. Et le fait qu'on soit passé qu'à plus que 60. Champignonnière en France, ça n'a pas empêché aussi la consommation de champignons de Paris de rester la même, ou de, ça je ne connais pas les chiffres, mais ce qui est sûr c'est que voilà, 95% des champignons de Paris que l'on consomme en France viennent de l'étranger.
D'où l'intérêt de réimplanter des productions en local, parce qu'a priori, enfin, c'est quand même très répandu, beaucoup de gens mangent ces champignons et plus tu pourras en produire en local, mieux ce sera, quoi.
Tout à fait, mais après ça va être aussi le coût, et ça c'est des questions que comme je vous disais, qu'on réfléchit aussi financièrement et tout ça, parce que champignon de Paris, ben, ça se vend, je sais pas, 4 ou 5 euros le kilo. En bio, peut-être un peu plus cher, mais c'est comme les endives, tu vois, quand on s'est lancé à faire l'endive de terre, et c'est un peu la même problématique sur l'endive de terre. L'endive, il y a plus que 95% de l'endive maintenant, elle pousse dans l'eau, sur des méthodes d'hydroponie. Donc nous, maintenant, comme vous savez, on utilise la paille décomposée des champignons de l'année dernière pour faire un terreau, et sur ce terreau, on va planter nos endives qu'on achète aussi, les radicelles. Et en fait, des producteurs en terre, il y avait 3000 dans les années 90, et de nos jours, pareil, il n'y en a plus que 200. Et quand on arrive, nous, sur nos marchés, avec nos endives de terre, où on est obligé de les vendre à un certain prix, entre 6 et 7 euros, parce que c'est comme ça, on se fait une mini-marge, enfin, nous, on est assez transparent sur, avec nos clients, avec tout le monde, voilà, on se fait 2 euros par kilo, donc c'est pas foufou. Et voilà, quand les gens, ils voient une endive de terre à 7 euros, et à côté, elle se vend à 2, 3 euros, c'est aussi du travail à expliquer, ça sera le même truc avec le champion de Paris, en fait. Les gens, ils ont aussi, ça c'est une vraie difficulté, moi, que je vois, c'est que les gens, ils ont oublié le prix des aliments, parce qu'avec la mondialisation et le fait qu'on ait délocalisé toute notre production, ça revient à avoir des tomates toute l'année, qui coûtent rien, qui n'ont aucun nutriment, mais les gens, après, quand tu leur proposes une tomate locale, ben forcément, elle n'a pas le même coût. Donc, c'est ça aussi. Après, je pense que le produit parle pour lui-même. Donc, nous, on n'a pas de difficulté à vendre nos endives, comme elles partent comme des petits pains. Mais c'est vrai aussi que nous, le projet, c'était vraiment de faire aussi des produits bio et pas cher. C'était vraiment ça, nous, de vendre, le choix de vendre aux 20 km. Comme vous savez, au début, on est parti à Bordeaux sur les grossistes. On a vite compris que ça ne nous a pas plu et c'était pas intéressant. On préférait le contact avec le client, mais c'est aussi de montrer aux gens voilà, qu'on peut faire du bio et pas cher. Et si les gens autour d'ici ne viennent pas parce qu'on est trop cher, on aura raté notre pari, quoi.
Et il y a aussi un autre équilibre à trouver, c'est par rapport à vous, votre salaire, comment vous vivez, vos contraintes. Tu nous disais l'autre fois que vous, la première saison, vous avez récolté, vous faisiez des journées de 6h à 22h pour récolter des champignons. C'est aussi un équilibre à trouver de votre côté, quoi.
Ah oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, les agriculteurs, enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne fallait pas compter les heures, mais ça, on le savait. Mais oui, en fait, Yanis et moi, on a eu le fait de passer de l'humanitaire à l'agriculture. On a eu une grosse baisse de salaire. Mais comme je dis, après, on fait plus d'heures, je ne sais pas, parce qu'on était dans des missions d'urgence, donc souvent, on ne compte pas des heures non plus quand on est sur le terrain. Mais en tout cas, on a gagné en qualité de vie. Donc nous, là, on est bientôt au SMIG, ce qui est très bien, ou au SMIG au bout de 3 ans, ce qui est très bien, mais c'est sûr qu'on n'est pas à 35 heures semaine. Mais après, voilà, on a un cadre de vie où d'aller sur les marchés, de troquer des produits locaux et bio. Enfin, ça, c'est une vraie... Et d'être son propre patron, ça, c'est pour moi, en tout cas, c'était ce que je voulais.
Ouais, c'est que t'as encore des contraintes, mais elles sont très différentes de celles d'avant.
Je pense que je cherche la vie sans contraintes, mais je suis pas sûr qu'on va réussir à la trouver.
On va retourner sur un truc un peu plus positif. Ah. Est-ce que t'as un truc que tu préfères dans ton métier, tout. T'as pas le droit de nous dire la bière après le boulot, hein. Ça
non,
ça
mais
compte
ça,
pas.
Y en a pas, on touche pas à ça, nous, ici. Les moments que je préfère, ça serait le samedi matin, ouais. Le samedi matin, comme vous voyez, là, on est devant l'entrée de carrière, sous l'affiche des champignons de l'Entre-deux-Mers, où il y a écrit vendre tous les matins, et oui, accueillir à la maison, accueillir à la ferme, donc... Vous avez vu, nous, on habite au-dessus, on habite allégé, donc moi, je suis en yourte, j'ai juste à sortir de ma yourte et descendre pour ouvrir et accueillir des gens à la maison, Et nous, ce qu'on a adoré, surtout avec Yanis au début, c'était de voir des gens qui se rencontraient chez nous. Et ça, on trouvait ça toujours génial. Et ouais, qu'il y ait des gens qui se retrouvent sur notre lieu et pour discuter. Et ça, on trouvait ça d'être créateur de liens. Et ça, c'est un truc que moi, j'aime bien. Et c'est pour ça que, vous voyez, qu'on a fait une guinguette associative, qu'on fait un gros festival de musique, que tous les premiers samedis du mois, maintenant, on organise un marché avec des grandes visites des carrières qui attirent pas mal de monde. Et ouais, ça, on aime bien, ouais. En fait, c'est faire la fête, mais je sais pas si ça fait partie du boulot, mais nous, on l'a mis dans le boulot, en tout cas.
Ah ouais, y a un truc qui ressort pas mal chez les agriculteurs en général. On en voit plein qui ont plein d'initiatives, on va dire, de liens sociaux, des marchés, des festivals, etc. Et j'ai un peu l'impression que ça amène à juste t'accueille plein de gens chez toi. Et en fait, quand t'es agriculteur, t'as la possibilité de faire ça parce que t'as plutôt de la place, on va dire, et des infrastructures qui le permettent. Je pense que ça peut être considéré comme un super avantage de travailler en agriculture.
Et moi, j'avais une question. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une production de champignons, ou bien juste en tant qu'agriculteur ?
Je ne sais pas si je suis très bien placé pour donner des conseils, mais comme j'ai dit tout à l'heure, foncez. Et si c'est ce qui vous fait vibrer, ce qui vous sentez au fond que c'est le sens que vous cherchez, faut pas hésiter, quoi. Enfin, moi, j'ai rarement vécu avec des regrets, je ne vis pas avec des regrets, j'ai toujours fait ce que j'aimais dans la vie. Et je pense que l'agriculture, comme j'ai, hein, vous avez vu, là, je suis en fin de saison, donc je suis un peu fatigué. C'est pas tous les jours facile, mais moi, c'est un sens. Nourrir ses voisins, c'est difficile de faire plus de sens profond. C'est juste que c'est pas très reconnu socialement, mais je pense que c'est hyper important. Et donc, si ça vous plaît, foncez.
C'est un super conseil.
Merci.
Et on va pouvoir passer à la dernière question,
ouais.
Je pense. C'est une question qu'on pose à tout le monde, qu'on aime bien poser parce que ça revient au thème principal de notre podcast, qui est ce qui relie tout le monde, c'est les métiers manuels et les mains. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de tes mains ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? C'est la petite colle.
Dire à mes mains ? Allez. Ben reposez-vous bien les mains, parce qu'elles sont fatiguées. Et non, écoute, merci. Merci d'avoir dit doigt. Et non, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire à mes mains, tu me prends par surprise. Je les regarde, je ne sais pas. Je leur dis merci, c'est
ouais.
Tout.
Bah, c'est très bien.
Merci à toi.
Merci pour votre aide.
Beaucoup. Merci d'avoir écouté Les Mains Libres, épisode 14, en compagnie de Milou. Si tu as aimé cette discussion, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines. Tu peux aussi partager l'épisode autour de toi et nous laisser un petit commentaire pour aider à faire connaître Les Mains Libres. Cet épisode a été financé par Antoine, merci pour ton aide et pour les fous rires à la plage entre deux sessions de montage l'été dernier. Dans les trois prochains épisodes, on reste encore en Gironde, à la rencontre d'Amélie, Marie et Julia, trois paysannes artisanes qui cultivent et transforment différents végétaux. Je ne vous en dis pas plus, soyez là dans deux semaines.